Liberté, égalité, fraternité. Liberté. Les logiciels respectent la liberté de leurs utilisateurs.
Égalité.
Personne n'a du pouvoir sur personne.
Fraternité.
Nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Avec un programme où les utilisateurs ont le contrôle du programme, où le programme a le contrôle des utilisateurs.
La seule incitation à innover, c'est qu'on vous copie.
Bien le bonsoir, bien le bonjour, chers auditeurs. Vous êtes sur la Radio Campus Nantes 2.1 sur Bruxelles et nous sommes dans l'émission Source. Alors aujourd'hui, j'ai l'agréable surprise d'accueillir Nico.
Salut.
Thiers.
Salut, bonsoir.
Peter.
Voilà.
Peter est pas là. Bon, d'accord.
Ah, je suis bien là quand même.
Ah.
Et un esprit.
Et un esprit pour plus tard. Et alors, il faudra encore un petit instant avant que la partie Mumble soit en place. Ça va bientôt arriver, du coup. Il y aura aussi des personnes qui seront possiblement là-bas.
Potentiellement en ligne.
Il y a des micros qui ne marchent pas ou...
Si, enfin, en tout cas, le mien, il marche.
Ouais. Le mien aussi. Hein.
Allô.
Ouais.
Ça roule.
Bon, encore.
Oui.
Bip, bip.
Bonjour, Gabri.
Ah.
Youpi.
Sinon, comment vous allez dans le monde des libres?
Que dire? Ouais, je sais pas. Bien.
Fatigué, moi.
Ah, c'était une après-midi bien chargée. Hein. On a remplacé le serveur streaming, le streamer de Radio Campus. Du coup, j'espère que tout le monde peut bien nous écouter. Antenne et stream.
Ouais, hein, sur www.radiocampus.be, il y a les petits boutons pour pousser sur Play, là, sur le dessus. Pas ceux de Mixcloud, machin, là, mais ceux du streamer de Radio Campus qui sont sur le dessus de la page.
Il y a trois choses, là, lettres écrites.
Oui, c'est vrai.
Il y a un OG.
Tout à fait. Attends, je vais aller les revoir comme ça.
Et autre mot.
Mmh. Le OGGHQ, le MP3 et le AAC.
Qu'est-ce lequel choisir?
Ah ah, alors le AAC et MP3 ne sont pas à proprement parler des formats libres. Par contre, le OGG est un format libre. Et donc, si on est concerné par le fait de nourrir ou entretenir ou se reposer principalement sur des formats de fichiers et donc du coup de formats de streaming, ça marche aussi. C'est la manière dont le son sera encodé. Ben, le OGG est une librairie libre de droit et dont la qualité est tout à fait correcte aussi. Parfois peut-être même meilleur, je ne sais pas, il faudrait comparer en fonction du son, mais c'est le seul actuel stream libre, en tout cas dont l'encodage est fait avec des librairies libres, c'est le OGG. HQ voulant dire haute qualité.
Ah, donc l'intuition féminine correcte.
Oui, très très bien. Et donc oui, c'est vrai que si on le joue par défaut, je ne sais pas quel est le format qui est pris par la page web, mais ça, on pourrait une fois changer ou vérifier.
Ah non, on l'a changé. Hein.
On l'a changé, je crois qu'on a mis OGG.
On l'a mis OGG en avant. Donc c'est une liste, selon le browser, c'est le browser qui va passer sur la liste quel format il supporte. Et là, on a mis OGG en avant, après MP3 et après AAC en dernier.
Ouais.
Et ça, c'était dans le temps, c'était à l'inverse, en fait.
Ouais. Ça, donc ça faisait la promotion indirectement.
C'est Adrien qui avait repéré ce petit détail.
Oui, noté le petit détail qui tue.
Je confirme si vous m'entendez.
Oui,
bonjour à tous.
Non.
Bonjour, salut. Bonsoir. Yeah. Et donc voilà pourquoi les petits boutons sur le site web de 3fw.radiocampus.be, sur le dessus de la page, il y a un lecteur. Il y en a un au milieu aussi, mais on parle de celui qui est au-dessus, à droite. Il y a trois boutons, OGG, MP3, AAC. Et si vous avez envie de préférer le format libre, préférez le OGG.
Bravo. Et aussi, Campus, c'est la radio
de l'Université libre de Bruxelles, c'est ça ?
Oui, voilà, bravo.
Oui, c'est vrai que c'est assez cohérent, au fond.
Oui, il faut le dire.
Tout à fait. C'est pas faux. Et donc, donc on disait cet après-midi qu'on a réinstallé un ordinateur, donc un serveur qui est quelque part dans les bâtiments de l'ULB. Et grâce à la magie du libre, là aussi, on a pu tout à fait, grâce au travail fort des gnuragistes et de Peter, installer depuis le HackLab l'ensemble des outils du système d'exploitation sur des disques durs. Et puis venir avec les disques durs jusqu'au 11e ici, arrêter la machine, remplacer les disques durs, mettre les disques durs qu'on a installés donc au fond sur un autre ordinateur, les mettre dans ce serveur qui est le streamer et démarrer la machine. Et au fond, que ce soit, je pense, pour moi, c'est surtout grâce au fait qu'il y a une grande portabilité, une grande compatibilité et une grande flexibilité de Linux, de pouvoir démarrer comme ça sur du autre hardware, puisque la carte mère n'est pas la même, le CPU n'est pas la même, la mémoire n'est pas la même, les cartes réseau qui nous ont demandé un petit travail supplémentaire.
Il faut des drivers proprios.
Parce que malheureusement, exactement, il fallait des drivers propriétaires pour les deux cartes réseau qui sont dans le streamer ici.
En tout cas, sans entrer les codes licences.
Voilà, mais sans devoir justement acheter une nouvelle licence ou taper un code quelconque, un numéro de série quelconque que le fabricant du système d'exploitation ou des outils logiciels qui composent l'ensemble de ce magnifique streamer nous soit demandé. Et donc ça, c'est chouette aussi, cette grande flexibilité que peuvent offrir les logiciels libres, de se soucier au fond assez peu de quel est le matériel sur lequel ils ont été installés. Voilà.
Ouais, non, c'est sans devoir rentrer des CD-ROM, installer tous les outils par les répertoires Debian, tout est accessible en direct.
Et en téléchargement. Et puisqu'on n'avait pas de carte réseau, c'est grâce à un smartphone qui partageait sa connexion Internet et un câble USB qu'on a pu temporairement donner un accès Internet à ce streamer pour aller récupérer les pilotes, les binaires propriétaires, hein, donc qui sont dans le jargon des utilisateurs et utilisatrices Debian, dans les dépôts non-free. C'est-à-dire qu'il faut aller dire qu'on veut bien accepter de télécharger des bouts de logiciels propriétaires qui sont disponibles dans les dépôts et faciliter donc l'installation, le téléchargement et l'installation.
Qui porte bien son nom, du coup.
Oui, non-free, c'est assez clair. Ça ne veut pas dire qu'ils sont payants. Ça veut juste dire qu'ils ne sont pas libres.
Des cartes réseau, prochain truc, ils changent.
Ouais. Ben oui, et donc c'est vrai que c'est... Allez, pour faire une petite transition avec un autre sujet. Donc, le fait de déplacer comme ça un système d'un certain hardware vers un autre, ça marche tant qu'on est dans la même, comment on appelle ça, que c'est toi un système 64 bits ou 32 bits ou
l'architecture,
voilà. Et donc, évidemment, si on passait d'une carte mère avec un processeur 64 bits, n'est-ce pas, Gavry ?
Oui, j'aime bien. Enfin, je préfère 69, personnellement. Oui, mais bon.
J'avais cru comprendre. Parce que le sujet d'après, c'est justement un plug 32 bits. Parce que voilà.
Ça donc, déplacer.
Ah oui, c'est oui. Déplacer, on va dire, des disques durs qui auraient été installés par avec un Linux 32 bits ou 64 bits sur une autre carte mère dont l'architecture du CPU n'est pas la même, ça ne marche pas, évidemment. Et donc, du coup, pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est parce que, justement, on a aussi fait une expérience dans l'idée de faire durer le vieux matériel hein, puisque la plupart des architectures d'aujourd'hui, c'est du 64. Les anciennes architectures, 32, et encore plus anciennes, 16, mais bon, on n'a pas été jusque-là. Le 32 bits, ça existe encore. On peut retrouver ça dans des vieux matos que les gens ne veulent plus utiliser. Et ici, justement, on a récupéré, grâce à Denis, je crois, merci Denis au passage, un ensemble de, qu'on appelle ça, des plugs PC.
Et ça ressemble à quoi ?
Alors, le plug PC, ça ne ressemble pas à un plug trois petits points, ça ressemble à une petite boîte noire sur laquelle on peut avoir une prise de courant que l'on met directement dans la prise murale, comme si ça, ça ressemblerait physiquement un peu à des volos, pour donner le nom d'une marque qui est assez répandue, une espèce de machin mural comme ça.
Un gros transfo
ou un truc comme ça qu'on pourrait brancher directement dans la prise et qui aurait une carte réseau. Et en fait, ça ressemble un peu aussi à une brique internet un peu plus grosse ou à un Raspberry Pi un peu plus gros. Donc il y a un espèce de tout petit boîtier qui a une carte réseau, qui a des ports USB, eSATA, Ethernet. Je ne sais plus si ça te peut mettre un écran. Mais je...
Non.
Non. Hein.
Câble sériel.
Câble série. Et donc dans ce cas-ci, c'est assez ancien, donc c'est en 32 bits.
Ouais, ça date bien 10 ans.
De 10 ans passés.
Ouais. C'était assez populaire il y a 10 ans, je pense.
Et alors, cher Peter, comment as-tu fait pour mettre un Debian 10, donc une distribution toute récente, sur ce vieux plug PC ?
C'était un coup de bol aussi. Moi, donc Denis, ouais, c'était bien Denis qui avait filé un peu récup du matériel. Et je cherchais un peu, je pense... OpenWRT, c'est un chouette système.
Voilà, il faut que tu définisses c'est quoi OpenWRT. Ouais.
Bon, c'est une distribution Linux comme Debian, SUSE, Ubuntu et d'autres. Sauf qu'elle est faite dans le temps et depuis bien 10-15 ans, je pense aussi, pour du
matériel réseau.
Ouais, matériel réseau ou des ordinateurs avec des mémoires réduites, des processeurs un peu lents ou...
Du petit matériel, comme on dit. Ouais. C'est ça, des trucs qui n'ont que un CPU ou 64 mégas de mémoire ou peut-être 512
ou moins
pour
encore.
Les plus gros.
4 mégas de mémoire.
Ouais, ou même 4 mégas de RAM.
4 mégas de RAM, d'accord.
Un CPU, un seul rouleau.
Un seul CPU, un seul rouleau de papier cul, c'est ça ? Non, c'est pas un rouleau de papier cul, un CPU, c'est...
Pour beaucoup de gens, à mon avis, ça revient plus ou moins au même.
Ça revient au même, oui. T'as combien de CPU ? Je sais pas, j'ai fait mon stock depuis le mois de mars passé, parce que c'était la crise du CPU.
Est-ce qu'on peut dire que c'est la tête pensante d'un ordinateur ? C'est l'endroit où tous les calculs vont se faire ?
Ah bah oui, on peut dire ça, parce que c'est le cas. Hein. Donc c'est le CPU, voulant dire le Central Processing Unit. Donc l'unité centrale de processing, je ne sais pas comment on traduirait processing en français, mais de calcul.
Voilà. Processus ?
De processus, oui, ou l'unité. Bon, je pense que ce serait l'unité centrale de calcul, dans le sens ce que fait principalement un CPU. Donc c'est un machin qui constitue aujourd'hui de millions, voire dizaines de millions de transistors microscopiques. Et son but du jeu, c'est de les allumer et les éteindre pour ne faire que des calculs. En gros, que des additions et soustractions de bits. Puisque chaque transistor s'allumera et s'éteindra à la manière d'une ampoule, comme à l'origine des premiers on va dire calculateurs électroniques ou électriques.
Électriques.
Où on allumait et éteignait des ampoules pour en fait donner plus tard ce que sont devenus les transistors, qui ont été miniaturisés au point d'en avoir des millions dans une toute petite puce qui fait à peine un centimètre sur un.
Des milliards.
Des milliards maintenant. Ouais. Mmh. Ouais, ça dépend, mais ils sont plus chers. Hein. Mais bon.
Les transistors qui font la taille
d'un cheveu. Le CPU, c'est ça. C'est l'unité centrale de calcul qui n'est en fait qu'une longue ribambelle de transistors qui s'éteignent et s'allument grâce à l'électricité.
Les processing sur DeepL, ils disent que c'est traitement.
Traitement.
Et du coup, ça me fait penser, moi, en fait, j'aime pas le mot informatique. Par contre, quand je lis la définition que l'informatique, c'est le traitement de l'information, alors ça m'intéresse déjà plus. Et donc, processing, dans le DeepL, ils disent que c'est traitement.
Ah oui, l'unité centrale de traitement. J'aime assez bien aussi la traduction, du coup. Oui, de fait, un CPU, c'est une unité centrale de traitement.
J'étais en train de raconter.
Oui,
on revient à notre petit plug avec sa distribution OpenWRT qui était faite pour les petites unités centrales. Avec des petites mémoires.
Ouais. Mais du coup, je suis tombé sur un site web d'un gars qui documentait comment installer un Debian récent, Debian 10, sur cette petite machine. Et ouais.
Et qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir installer Debian et pas OpenWRT ?
Quand on y pensait, pour les gnouragistes, l'utiliser comme une petite machine de backup, puisqu'il y a aussi des cabinets de disques qui vont avec, et d'avoir un peu des outils spécifiques à ça, dans la distribution, c'est quand même pas mal. Là, en OpenWRT, c'est pas donné d'avoir tous les paquets qu'on a d'habitude. Et du coup, Debian 10 sur un tout petit processeur qui date de 15 ans, c'était une belle trouvaille.
Et du coup, je peux me retourner vers tierce. Oui. Comment ça se passe, les backups? Vu que c'est les sauvegardes informatiques, c'était l'idée...
Au passage, ce que j'aime aussi, ce que je trouve chouette dans cette expérimentation-là, c'est que on a beau avoir, on va dire, des grands noms comme Red Hat, Ubuntu, Debian, mais au fond, quand on gratte, quand on y met des couches d'exigence et qu'on a besoin de trucs plus spécifiques, grâce à Internet et grâce à, on va dire, l'ouverture qu'il y a dans tous ces outils numériques, on peut tomber de fait sur des gens qui font des trucs juste, pour ainsi dire, incroyables, de maintenir certaines librairies logicielles ou certaines architectures ou certains packaging, comme on dit, donc le fait de rassembler un ensemble d'outils et de les rendre disponibles pour des gens qui voudraient, comme nous on a voulu ici, installer quelque chose de moderne sur quelque chose de très vieux. Et ça, je trouve que c'est aussi une des belles forces des logiciels libres, c'est que ça permet à des gens un peu comme ça, généreux et exceptionnels, de mettre du temps à disposition et de permettre à d'autres de continuer à faire vivre quelque chose qui aurait pu être considéré comme un rebut, mais bon, pour la poubelle. Et grâce à Internet et grâce à du temps passé à chercher, on peut tomber sur ce genre de distro. Et donc, du coup, c'était grand bonheur pour moi aussi de voir que des outils plus modernes, comme Borg, par exemple, qui est un outil dont AGO, merci AGO, m'a invité à explorer pour faire des sauvegardes. Il est aussi fonctionnel sur une architecture 32 bits. Dans mon souvenir, ce n'était pas le cas il y a peut-être 3 ans quand j'avais regardé. Mais maintenant, il y a Borg et Borgmatic, un outil qui facilite la configuration de ce chouette outil de backup, qui est également disponible sur 32 bits. Et donc, la petite chaîne d'avoir Denis qui nous dépose du vieux matos, comme disait Peter, donc il y a la petite unité centrale, le plug PC, mais aussi des cabinets pour mettre 4 disques durs dedans. Et bien, grâce au travail de ce monsieur qui a continué à packager, on va dire, une distribution moderne pour 32 bits, et grâce aux gens qui fabriquent Borg et Borgmatic de l'avoir aussi compilé pour 32 bits, on peut avoir un vieux machin avec 4 disques durs en RAID, donc redondant et résistant à la panne. On peut en perdre un et c'est pas un problème.
Tu dis un disque dur?
Ouais, on peut perdre un des 4 disques durs. Enfin, il y en a un qui est réservé pour le système, c'est pas trop grave. Et il y en a 3 qui sont un agrégat, donc on peut perdre un des 3 disques durs de stockage à proprement parler. Et donc ce vieux machin supporte comme ça 3 fois 2 terras, et donc nous offre à disponibilité presque 4 terras d'espace disque. Et grâce à Borg, justement, on peut conserver aussi des différences. On peut conserver comme ça un historique des différents serveurs qu'on sauvegarde sur ce vieux plug PC. Parce que justement, Borg compresse, chiffre, et ne déduplique pas comme ça tout le temps les copies. Si on fait un backup tous les 3 jours ou tous les jours, on n'a pas X versions qui se recopient l'une l'autre. Il se repose sur la différence. Donc, il compare qu'est-ce qui a changé et il ne backup que ce qui a changé entre hier et aujourd'hui.
Donc, la duplication, si j'ai deux fois le même document Word, par exemple, ou Calc, si je sauvegarde ça de manière bête et méchante, je vais retrouver plusieurs fois la même copie de mon document.
Oui, si tu fais un backup par jour sur la semaine, tu vas avoir 7 copies de ton fichier.
C'est atroce.
Et là, ce que Borg permet de faire, si j'ai bien compris, c'est que si jamais le document n'a pas changé du tout, il ne va pas le recopier.
Il ne va pas le recopier. Il va juste faire le lien entre la version de lundi qui n'a pas bougé et il ne va pas recopier 7 fois le même fichier. Donc, il ne va pas gaspiller de l'espace disque inutilement. Et donc, c'est ça qui est super chouette, c'est qu'en en se reposant sur l'ouverture de qu'offrent ces logiciels libres ou de l'accès en tout cas aux sources qui permet à des gens de continuer à maintenir et à mettre en place des chouettes outils, on peut vraiment aujourd'hui encore faire fonctionner un vieux machin 32 bits qui propose 4 Tera de stockage avec des outils super modernes qui permettent une gestion assez intelligente de la sauvegarde et du chiffrement. Bon, c'est un peu dur. Le premier backup de Gavry, vas-y.
Tu parles de récupérer pour un usage informatique. Et est-ce qu'il y a aussi une récupération des matériaux? Admettons que ça soit trop bousillé, justement, pour que vous alliez le chercher avec la grosse camionnette et tout ça. Ouais. Denis, c'est ça?
Oui, Denis fait
merci
ça beaucoup.
Merci, Denis. Si c'est trop capouche, est-ce... Tu vois, tu comprends
Oui, oui, je vois.
Et mais... est-ce qu'il y a une autre façon encore de récupérer, même si c'est le côté art, sombre de...
La filière du recyclage en informatique, elle est très, très, très particulière.
Oui.
Tu vas retrouver certains acteurs qui vont pouvoir récupérer ton matériel et essayer de les désassembler, donc retirer chaque élément dessus et les reprendre pour d'autres... ailleurs, mais c'est assez rare.
Ah.
Soyons honnêtes, moi, typiquement, dans toute ma vie, j'ai déposé du matériel informatique dans des packs à conteneurs, mais je suis quasi sûr qu'ils sont broyés. Enfin, à la fin, ils sont broyés et très peu utilisés.
Ça va loin, en fait. Si tu veux,
j'ai posé une mauvaise question.
Non, parce que c'est un peu le sujet du recyclage et du reconditionnement, puisque c'est aussi une des activités, on va dire, de l'esprit du hacker et de l'esprit des gnuragistes et de l'esprit des logiciels libres, c'est de continuer à faire fonctionner du matériel qui serait considéré comme obsolète, peut-être par des fabricants ou des constructeurs qui auraient comme motivation première, le remplacement rapide et la vente de nouveaux matériels. Et donc, le logiciel libre est assez compatible avec cette idée de continuer à faire vivre des choses qui pourraient être obsolètes. Mais quand c'est obsolète, ça dépend. En fait, le premier réflexe, ça sera de faire, comme disait Terry Rock, d'utiliser les pièces détachées. Donc, si c'est un ordinateur, un plug PC, c'est tout petit, donc récupérer les pièces détachées qui sont dedans, c'est pas évident. Par contre, si c'est un ordinateur portable ou une tour ou un serveur, on pourrait conserver séparément la carte mère, le processeur, la mémoire vive, l'alimentation, les disques durs, les cartes réseau éventuellement, ou les cartes son, s'il y en a, ou les cartes graphiques, s'il y en a aussi. Et même si la machine ne fonctionnerait plus, peut-être que parce que la carte mère serait foutue ou l'alimentation serait foutue, on peut la cannibaliser, on va dire, pour essayer de reconstituer avec différentes machines cassées un ordinateur fonctionnel.
Genre
des dons d'organes, tout à fait. Ce seraient des vieilles machines qui auraient fait don de leur corps à la science ou à la récupération. Pour tout ce qui est vraiment plus fonctionnel, une alimentation vraiment grillée, on pourrait aller jusqu'à la réparer. Si on a un peu d'expérience en électronique, on pourrait découvrir quels sont les bouts du circuit qui ne fonctionnent plus et peut-être les dessouder et les ressouder. On pourrait aller jusque-là.
Dans une alim, ça peut marcher, mais... sur une carte mère
ou... Non, c'est ça, mais après sur les cartes mères, donc tout ce qui serait circuit imprimé, donc les micro-circuits, donc ces espèces de plaques vertes ou oranges ou noires parfois, avec plein de petits bouts d'électronique super solidaire comme ça, de ces composants... sur silicium, hein, donc la plaque de silicium, il y a plein de machins soudés dessus. Là, ça devient super compliqué.
Aujourd'hui, c'est pas possible de les réparer. Si on revient il y a 20 ans, 30 ans en arrière, c'était possible parce que la miniaturisation n'était pas à un tel point que humainement, on pouvait extraire les éléments et les remplacer. Aujourd'hui, la miniaturisation est tellement forte que même si on y va avec une grosse loupe et des fins outils, on ne sait même plus retirer les éléments.
L'ennui, c'est que les éléments, ils viennent de quelque part. Vous disiez sélénium.
Silicium.
Silicium. Ce sont des matériaux...
Plaque même, c'est de l'époxy.
Époxy, c'est ça. Ouais.
Ah, époxy, oui.
C'est une crasse.
C'est une surface, hein. Oui, c'est un plastique spécial.
C'est le fameux plastique vert. Il y a beaucoup de, tu vois, t'as des plaques vertes comme ça avec plein de circuits électroniques dessus.
Mais même on peut employer ça comme plancher, comme pour marcher.
Ah,
ça j'ai jamais vu.
Si.
Ouais, un sol en époxy.
J'aime bien dire des bêtises.
Tout ce qui est monté sur cette plaque, en fait cette plaque c'est de l'époxy mais avec des tracés de cuivre super fin qui sont dedans, qui sont pendant en 16 couches, il y a 16 couches de cuivre dans cette plaque époxy, donc c'est
Mais c'est très fin, c'est une plaque, c'est 3 mm de...
Ouais. Et là-dedans, il y a 16 ou même plus de couches.
Chaque couche est un chemin différent pour relier les différents éléments qu'il y a sur cette plaque.
En fait, c'était une question vicieuse, parce que c'est quand même, ça fait partie, il y a des mines de cuivre. Ouais. Bon, je suis pas sûre quel mot vous avez employé avec silicium ou si je me trompe pas.
Non, mais c'est pas vicieux, t'as tout à fait raison. Il faut parler de ça. Ouais.
Parce que je veux dire, il y a aussi de la sueur dans les matériaux.
Et du sang.
Oui.
Donc dans les puces même, c'est du silicium, mais dopé avec des éléments assez rares.
Oui, silicium, hein.
Silicium, mais ça, c'est assez courant, quand même, encore.
Oui, non, mais c'est excessivement cher.
Il y a des métaux plus rares que le silicium. Le silicium, c'est encore un matériau qu'on trouve... qui est le processus pour le récupérer.
L'extraction.
Mais il y a des matériaux plus rares. Après, moi, je ne connais pas...
Tout ce qui compose la batterie, par exemple. Tout ce qui compose la batterie, c'est des terres rares. Et effectivement, c'est très très compliqué d'extraire, enfin ça devient de plus en plus compliqué. Ça pose énormément de questions aux sociétés, ça c'est évident. Démarche qu'on était en train de décrire actuellement avec Thiers et Nico, c'est que aujourd'hui le monde du libre permet de ne pas considérer un matériel comme obsolète rapidement. Il faut vraiment aller jusqu'au moment où la paire ne fonctionne plus, qu'il ne soit plus réparable, pour le considérer comme obsolète. Qui est dans un monde propriétaire est complètement faux. Dans un monde propriétaire, ce qui va se passer, s'il y aurait des contrats de remplacement et un parc informatique dans une société entreprise, va être remplacé tous les 3 ans parce que ça va être rentabilisé. Et on se pose même pas la question de est-ce qu'il y a moyen de recycler et d'en faire un deuxième usage ?
Oh, je crois que oui.
Il
y a toujours moyen de faire du business avec...
Mais ces sociétés-là ne se préoccupent pas de ça.
Peu. De plus en plus. Hein, ouais.
Donc
le thème étant un peu le recyclage, ça peut aller jusque-là. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus, par exemple, de magasins de matériel informatique reconditionné. Il y en a plusieurs à Bruxelles. Et donc, du coup, ça émerge, cette idée de... Le commerce voudrait que tous les 3 ou 5 ans, une entreprise digne de ce nom remplace son parc informatique pour continuer à être à la pointe. Mais le matériel est avant d'être jeté, quand bien même il y en a qui les jettent hein, réellement par conteneur entier, hein, par la fenêtre, comme ça, pouf, pouf, pouf. Il y a plein d'autres entreprises, et y compris des fabricants, des grandes marques, qui ont un programme de reconditionnement. Donc, il ne faut pas non plus complètement noircir le monde de l'entreprise ou des logiciels propriétaires. Il y a des programmes de reconditionnement, y compris de reconditionnement de cartouches d'imprimantes, par exemple, donc, du coup, ou de recyclage, dans le sens où on ne va pas complètement toutes les brûler, on va essayer d'en faire quelque chose. Donc il y a une espèce de conscience qui s'éveille, mais bon, c'est vrai qu'il traîne quand même toujours du vieux matos un peu partout. Et là, ben, c'est ce qu'on décrivait avec cette expérience du plug computer et de sa baie de 4 disques durs, c'est que quand on prend le temps, avant de considérer un machin comme bon pour la poubelle, on peut gratter et trouver des utilités, comme c'est le cas avec des vieux PC pour faire des serveurs Wayunost, par exemple. Ben on peut, avec un vieux plug PC, faire un serveur de backup, parce que voilà, il n'y a personne qui va venir lire tous ses mails, ou personne qui va venir consulter son Nextcloud, c'est juste une machine qui va offrir de l'espace disque et pour venir déposer tous des fichiers. Donc ses performances sont suffisantes. Et donc oui, c'est vrai que dans cette question, il y a, depuis le début, c'est, on va dire, le meilleur déchet est le déchet qui n'est pas produit. Donc du coup, ça peut questionner très loin la réflexion sur le recyclage. On peut du coup remonter jusqu'au fond, pourquoi est-ce qu'on a créé la chose que l'on est en train de jeter. Mais indépendamment de ça, c'est vrai que pour ce qui est de l'électronique, c'est assez moche, puisque il y a quand même une grande partie de tout ce vieux matos qui finit dans des pays qui n'ont pas, on va dire, la même position dominante que les pays occidentaux, et dans lesquels, oui, les êtres humains se retrouvent à cramer des plaques d'époxy pour en récupérer les quelques molécules d'or qui sont disponibles dedans, ou les quelques bouts de cuivre qui sont disponibles dedans. Alors là où tout le monde porte un masque buccal aujourd'hui, c'est pas sûr que ces gens qui crament des plaques d'époxy entières portent un masque, et donc finissent avec des conditions de santé dramatiques. Ça, oui, ça fait aussi partie de qu'est-ce que c'est que le matériel électronique aujourd'hui, depuis l'extraction qui se fait parfois dans le sang, jusqu'à la récupération qui se fait aussi dans les conditions d'hygiène catastrophiques, bah, y a des gens qui ont encore une petite conscience sur, avant de considérer un objet comme étant bon pour la poubelle, au risque de finir comme agent contaminant d'autres personnes quelque part dans le monde, bah, on va encore essayer de le faire vivre. Et là, les logiciels libres ont aussi un rôle à jouer, rendre ça possible.
C'est une belle récupération, ce que tu viens de te dire.
Je vois qu'il y a un article d'ailleurs sur Wikipédia, déchets d'équipement électrique et électronique, où je retrouve la photo d'une... Peter, tu m'avais parlé d'une décharge à ciel ouvert au Ghana, qui s'appelle Agbobloshi, je pense.
Et comment t'as dit ?
Agbobloshi.
Agbobloshi.
Je crois.
C'est...
Et elle est cette photo est dans l'article.
Bah, toute la page est de fait en allant sur Wikipédia, donc notre, on va dire, immense encyclopédie collaborative, en se reposant elle aussi sur des logiciels libres, en allant sur Wikipédia en français et en tapant dans la zone de recherche les premiers mots que sont déchets. On trouve assez rapidement l'article « Déchets d'équipement électrique et électronique » qui pourrait un peu décrire quelles sont toutes les différentes étapes et on va dire tout un tas de considérations autour de ce beau paysage environnemental qu'est le déchet électronique. Mais voilà, avant d'en considérer un déchet, ben, on essaye de donner encore une vie aux outils. Ben, ouais.
Ce qui réduit peut-être aussi la fracture numérique. La fracture numérique au niveau socio-économique.
Ah. Avant de relancer un autre sujet, je vous propose de faire une petite pause, de s'abreuver et de reprendre.
Oui, c'est vrai, parce qu'après tout, on l'a pas encore dit, mais on est vendredi quand même. Hein.
Eh oui.
Okay.
Radio Campus.
Suck my motherfucking dick.
Une radio pacifique.
Radio.
Nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés.
De ne pouvoir écouter Radio Campus. Radio Campus, on veut des auditeurs.
Alice is in love with the Mad Hatter, did you know? The Red Queen got the news yesterday, and now they're running far away. Alice is in love with the Mad Hatter, did you know? They're from two worlds and absolutely mad, but being crazy isn't always bad. They're one step away from reality. They know how to count an infinity. They're the craziest couple in history, and they know how to build up a castle with their dreams, how to move down the walls and be free. They're in love, so let them be just as crazy as they should be, just as mad as we all are when we are in love. Can't you see? Nothing can stop their victory. The war is over, mad love beats hate and logic.
Who needs logic?
Hell is this in love? They brought warmth into a cold world, changed it all with a single word. Alice is in love with the Mad Hatter, did you know? They build up their own universe between a chorus and the birds.
reality with limited time, and they know. But they don't have a thing to fear. They're far away, but right here. They make sadness disappear with their love. So let them be just as crazy as they should be, just as mad as we are.
Que je sens là.
C'est un petit doigt.
Joli petit doigt.
I don't cry when it rains no more, or I get dirt on my shoes. I don't mind climbing eight more floors, 'cause these stairs are all heading to you. Still fits like a glove. And tell the band to play one more slow song, 'cause you still have all my love. One more cold drink, one more road, one more dance before the doors get closed. Please remember, enjoy the show.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Campus Nantes 2.1 de la bande FM sur Bruxelles et nous sommes dans l'émission Source.
L'émission Source qui est quand même une émission sur Radio Campus qui est la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles.
Comme c'est si bien dit, on ne le dit pas assez. Enfin, si, c'est vrai que Fredux nous rappelle quand même souvent qu'on est à l'Université libre de Bruxelles.
Et d'ailleurs, moi, je me sens un peu déconnecté quand même, malgré tout. Tu vois, avec les étudiants, tout ça, il y a déjà eu beaucoup d'étudiants qui sont passés dans Source, par exemple. Beria, il était passé à un moment donné.
Ouais.
Oui, de l'Urbex. Enfin, du libre examen, pardon.
Ouais. Oui, c'est pas faux.
C'est peut-être à vous d'aller dans les auditoires, vite.
Allez, une chose en plus à faire.
Chez des étudiants.
Hey, voilà. Tu veux venir à l'émission Source parler des logiciels libres?
De quoi?
Et voilà. Bon, sans transition, un nouveau sujet?
Oui, mais un petit peu avant le nouveau sujet, expliquer quels sont les morceaux qui viennent de passer quand même.
Pas fou.
Un petit peu.
Oui, c'est vrai, parce que quand même, tu fais des extraordinaires choix musicaux.
Du coup, nous avons eu, dans l'ordre, que je dis pas de bêtises, donc en partant du dernier vers le premier, on a eu Happy Before We Get Old de Michael Sainy. On a eu Alice in Love de Lon Chaney. Et il m'en manque un. A Slogan de Annie Rugby.
A Slogan, ça va très bien avec le plug PC, je trouve. Je te remercie beaucoup pour ce choix. Excusez-moi, c'est vendredi.
Tout à fait. Et on va un peu revenir dans la mouvance. Comment on essaye de récupérer des vieux téléphones et d'en faire quelque chose? Avec, entre autres, Lineage OS. Est-ce qu'il y a quelqu'un entre vous qui connaît Lineage OS et qui va en dire un petit mot?
Ouais. Donc, Lineage. Donc, Android, le système de base des téléphones portables non...
Apple.
Ouais. C'est basé sur Linux, sur un noyau libre, avec le système de les outils autour en libre, fait par
Google.
Et c'est, donc cette base libre est reprise par un projet dans le temps CyanogenMod et maintenant Lineage. Il y en a plein d'autres, en fait, mais Lineage, c'est un peu le plus costaud, je pense, qui recompile cette base libre et la met à disposition pour des différents modèles de téléphone, pour les adaptations, processeurs et tous les puces autour.
Ce qui permet aussi de parfois, quand le constructeur ne émet plus de mise à jour pour le téléphone ou le smartphone, plutôt le smartphone du coup, Lineage peut encore apporter des mises à jour et du coup rester sur une version récente de l'OS alors que le constructeur a complètement abandonné l'idée de le garder. Donc, ce qui permet aussi de ressusciter parfois des vieux téléphones.
Absolument, ouais. Ouais,
donc pour ceux qui ne connaissent pas Lineage OS, c'est bien lineageos.org. C'est comme une distribution, mais qui, de fait, permet aussi de faire fonctionner des, je sais pas moi, vieux Samsung ou autres smartphones plus maintenus ou plus à jour, parce que ça arrive, hein, même dans les belles grandes marques à la poire dorée, où on te dit que voilà, ton téléphone n'est plus compatible avec la dernière version de iOS machin. Et donc du coup, ben voilà, il y a des gens, encore une fois, toute une probable communauté de développeurs et développeuses qui maintiennent une distribution, au fond, parce que c'est exactement un peu dans la même idée que d'avoir une distribution Linux, Ubuntu, Red Hat, Fedora, Manjaro, Arch Linux, ou je sais pas quoi, mais spécial pour appareils ordiphones, comme dirait notre bon Fredux, pour les ordiphones. Et parfois des ordiphones dépassés, entre guillemets, bon, pour la poubelle. Et donc c'est... Ouais.
Pourquoi tu dis Samsung, qui est une marque, et que vous avez un super tabou sur Apple?
J'ai dit table, j'ai dit Apple comme ça, j'ai dit Google comme ça. C'est pas qu'on a un super tabou, mais c'est que...
On essaie de pointer des mécanismes et pas des sociétés...
Oui, mais c'est difficile, hein, quand on est face à des positions dominantes, c'est extrêmement difficile de...
sortir de cette justement position dominante, de ne jamais mentionner les grandes marques existantes, alors qu'il en existe parfois d'autres. Tu vois, par exemple, dans le monde du matériel un peu plus libre, il y a Purisme, qui est une entreprise américaine qui se repose sur le concept du crowdfunding pour essayer de mettre en place des ordinateurs ou des smartphones. Il y a aussi Fairphone, qui est une entreprise hollandaise, si je ne me trompe, qui justement essaye de fabriquer des téléphones, comme ils le disent, fair, dans le sens où en essayant de maîtriser le mieux possible la chaîne de production, depuis l'extraction jusqu'au recyclage, avec voilà, une sorte de limite. Voilà, ce n'est pas parce qu'on a décidé en tant que Fairphone de fabriquer un téléphone qu'on va pouvoir aller jusque dans la mine soi-même, récolter sans sueur les métaux précieux qui rentrent dans l'appareil. Mais en tout cas, de promouvoir la réflexion sur le composant électronique que serait l'ordiphone en question, et en essayant de le rendre le plus juste, entre guillemets, en termes de exploitation, commercialisation, capacité d'être réparé éventuellement ou remplacé, les pièces détachables encore si possible, et puis ben, reconditionné, et aussi compatible éventuellement, et je ne sais pas par exemple si l'Ineage OS est compatible avec un Fairphone ou pas.
Il est compatible.
Et moi ça me refait penser à ce que Peter, ça, tu disais là, que l'année passée je crois qu'il y avait à nouveau une production, enfin que l'estimation de la production de smartphones dans le monde c'était 1 milliard par an, 1 milliard de téléphones par an. Et c'est délirant. C'est délirant, surtout quand tu mets ça justement en face de quelques personnes qui essayent de maintenir des solutions logicielles pour pouvoir utiliser des vieux téléphones. Ça devrait être beaucoup plus massif. C'est délirant de continuer à produire plus d'un milliard de téléphones par an au lieu d'essayer de s'organiser différemment. Parce qu'on ne voit pas très bien comment tu peux diminuer l'extraction des ressources en continuant avec un rythme pareil de production.
Ça ne va pas durer longtemps. Bonjour Mars.
Non, ne dis pas bonjour Mars, parce que tu sais qu'il y a des gens qui y croient aux États-Unis à bonjour Mars.
Bah, oui, Mars et toutes les autres, de notre, et même d'autres galaxies.
Commençons par la Lune, s'il vous plaît. La Lune, c'est déjà pas mal parti hein, pour essayer d'extraire les métaux qui s'y trouvent.
Oui.
Non, mais là, vous délirez tous complètement. qu'est-ce qui se passe?
Bah, je vois pourquoi on délire. C'est, l'être humain est une créature qui ne se satisfait pas, en général, de son environnement. Parce que, voilà, le nomadisme est dans, on va dire, ses attitudes fondamentales, c'est-à-dire... bouger, il y a des êtres humains qui ont toujours voulu bouger, et il n'y a aucune raison que l'exploration ne l'amène pas jusqu'à où que ce soit dans l'univers, tant que faire se peut.
Non, je suis d'accord, mais c'est parce que dans le détail, tu vois, Gavril, en fait, je disais ça parce qu'il y a aussi tout un... Enfin, de ce que je sais, par exemple, dans la Silicon Valley, tu vois, il y a tout un fantasme, effectivement, de continuer à extraire les ressources, en fait. Comme on le fait actuellement, c'est-à-dire trop, pour pouvoir, et de prospecter sur d'autres planètes, pour aller vivre sur d'autres planètes. Mais on sait quand même, enfin moi j'ai quand même l'impression que même si c'est possible, ce sera possible pour une extrême minorité de l'humanité. Enfin, en tout cas... Donc voilà, c'est pour ça que je disais ça. Bon, peut-être que je me trompe aussi. Hein.
Mais je vais vous parler de l'Ineage OS de manière pas du tout désintéressée.
Oui, c'est vrai qu'on a. C'est une soirée où on aime bien les entourloupes comme ça. On fait des envolées, qui était un léger fumée. On s'envole vers des sujets de plus en plus lointains. Donc l'Ineage OS, tu disais.
Donc il n'y a pas très très longtemps, Thiers, qui m'a fait une belle réflexion sur. Mais il ne faut pas utiliser
de smartphone.
Voilà. Et du coup, je me suis dit, il ne faut pas utiliser des smartphones avec les services de Google.
Ah ça oui, ça c'est sûr.
Du coup, voilà, quand on a un téléphone qui est sous Android, en fait, beaucoup d'applications sont liées de manière forte avec les différents services de Google. Ça peut aller pour les notifications, à la gestion de la carte avec Google Maps, à Google Pay pour les paiements. Enfin, ça peut aller vraiment dans plein de domaines différents. Et il y a des petits gars qui ont créé MicroG, qui est une réécriture des services de Google sans Google.
Oh, c'est fort, ça. Avec et sans.
Ils ont essayé, en tout cas. Il y a des petits bouts. Par exemple, la notification, ben, ils sont obligés d'utiliser les serveurs de Google, mais en essayant d'anonymiser le plus possible et en donnant le moins d'informations sur l'utilisateur. Le but de MicroG, c'est vraiment de pousser pour limiter l'exposition de la vie privée aux yeux de Google.
Ah oui, ça c'est chouette parce qu'en fait, MicroG, comme je peux le lire, est a free as in freedom re-implementation of Google's proprietary Android user space apps and libraries. Donc une réimplémentation des librairies propriétaires de Android en termes d'espace utilisateur, applications et librairies. Et c'est soutenu par l'éducation nationale allemande, par exemple. Ce qui ne m'étonne pas, parce que Google voulait s'implémenter, je ne sais plus dans quelle ville allemande, et il y a quand même un gros mouvement de « fuck Google, on ne veut pas de vous ici ». Donc ah ouais, c'est pas mal.
C'était Tegel.
Ouais, je ne sais plus.
À Berlin.
Ah oui, oui.
L'aéroport de Berlin, l'ancien aéroport de Berlin.
Très bel aéroport.
Magnifique. Oui, tout à fait.
C'est un bâtiment extraordinaire.
Ouais, mais bon, attends.
Ich hab dich verstehen, was du hast gesagt, vielleicht.
Ouf. Mais,
tu veux dire l'origine du bâtiment était un peu nazi, oui, ou franchement nazi.
Oui, mais en même temps, il a servi pour le pont alimentaire. À l'époque de la crispation de l'Est.
C'est vraiment aujourd'hui une émission où on fait des envolées lyriques, enfin pas lyriques, mais des espèces de rebondissements.
C'est pas mal
de...
si on revient à chaque fois à l'image OS.
Si on parvient à revenir à tout ça, donc MicroG.
MicroG, de nouveau, non, pas aujourd'hui.
Oui, très mature. MicroG, très proche du point G, on est d'accord.
Voilà, ouais.
Okay. C'est vendredi. Voilà,
mais c'est surtout MicroG parce que le G de Google.
Google. Ah, c'est ça!
Mais oui, ça n'a rien à voir avec cette mythologie.
Du coup, voilà. Donc, je suis dans ma démarche où je me dis, bon, bah, je vais écouter Thiers et je vais me radicaliser un peu plus et je vais essayer de ne plus utiliser le service Google du tout. Du tout, du tout, du tout. Mais j'ai envie de pas non plus sacrifier ma vie privée et je veux vraiment mettre ma vie privée au premier plan.
Mais un téléphone marche très bien sans ces trucs... En tout cas, hein.
Je vais y arriver.
Ah.
Je vais y arriver. Donc pour moi, la première étape, ça a été Lineage OS plus MicroG. Donc c'est un petit combo qui fonctionne bien, qui permet de du coup se passer des services de Google.
Ouais.
À ça, il y a deux choses qu'il faut ajouter. Il y a F-Droid, qui est un magasin d'applications open source et qui ne promue que des logiciels open source. Et après, il y a Aurora, qui est un autre magasin qui, lui, reprend toutes les applications qui sont fournies sur le Google Play Store et qui sont disponibles. Bon, concrètement, pour moi, j'utilisais déjà beaucoup d'applications sur le F-Droid, donc ça n'a pas trop changé ma vie de ce côté-là. Par contre, il y a un autre côté où ça a un peu changé ma vie. Il y a des applications bancaires que j'utilise. Il y a quelques petits services à droite à gauche que, Aurora me permet de moins récupérer cet accès-là. Ça se passe pas spécialement bien. Je vais vous prendre un cas, et je vais en faire rebondir plus d'un, mais au moins on va le prendre. Le cas de Uber.
Mm-hmm.
On y arrive. Uber affiche une carte de la ville où vous vous trouvez. Et il essaye de vous géolocaliser. Mais moi, la géolocalisation... elle ne passe plus par les services de Google, parce que je n'ai plus les services de Google. Donc, il y a une base de données que Mozilla entretient sur les antennes GSM, ça permet de vous trianguler, ça c'est une manière. Wow. L'autre manière, c'est la puce GPS. Voilà. Mais la carte que cette pauvre application Uber essaye de m'afficher, c'est plus du Google.
Et du coup, ça fait des choses what the fuck sur... quand il essaye de retrouver l'adresse exacte où vous vous trouvez, ça fait des choses assez élégantes. Vous pouvez.
Est-ce que tu restes encore dans la même ville?
Pas toujours.
Même pas toujours. Ah ouais, bah oui, oui. Voilà. Oui.
Donc ça confirme de ce côté de. Ah oui, non, mais cette application-là, je peux juste pas l'utiliser, elle est pas fonctionnelle. Donc en fait.
Et est-ce qu'on te facture les trajets des autres villes où tu n'as pas été?
Je ne sais pas. Et voilà, ça c'est un exemple de choses qui sont réelles. Donc on essaye de se vraiment dégoogliser par rapport à un smartphone. Il y a certaines applications qui utilisent vraiment Google Maps comme fond et ça marche plus.
Mais donc c'est assez cohérent parce que donc ça veut dire que si tu veux ne plus utiliser Google, tu n'utilises évidemment plus non plus Uber.
Ça va avec.
C'est pas mal.
C'est pas mal. C'est cohérent.
On commence à retrouver une forme de cohérence.
Mais le truc là. It's me, c'est la même histoire. Hein.
Ah ouais, attends.
Toi, t'as pas...
J'y arrive. Après, on arrive aux applications officielles qui requièrent un OS officiel. Et je mets beaucoup de guillemets, vous les voyez pas, mais je mets mes guillemets. Donc, j'ai voulu utiliser une appli bancaire. Et cette appli bancaire a dit, le clavier qui fait tourner votre... Enfin, le clavier que vous utilisez n'est pas dans la liste des claviers compatibles. Dans la liste des claviers officiels. Ah oui, moi j'utilise AnyKeyboard, qui est un clavier qui est disponible sur l'F-Droid, qui permet plein de choses. Eh ben, c'est pas dans la liste des applications des claviers officiels de cette banque. Du coup, aujourd'hui, je n'ai plus la possibilité de consulter cette banque sur mon téléphone.
Ah, hein, c'est... Donc, ça veut dire qu'il existe une liste de claviers officiels.
Ben oui, monsieur, c'est normal.
Et comme par hasard, cette liste de claviers officiels...
N'inclut pas les claviers open source.
N'inclut pas les claviers libres et open source. Ou... Notamment, un clavier, c'est exactement l'appareil, la couche logicielle que tu utilises pour taper tes mots de passe, tes codes PIN et tout ce que tu veux, quoi.
Encore ?
Oui, il y a encore des gens qui font ça. Code PIN, oui, mais... c'est... Oui... Code PIN, tout à fait.
Je continue mon petit bonhomme de chemin.
Oui, vas-y.
Alors, on va arriver à It's Me. It's Me, juste l'application refuse de se lancer parce qu'elle n'accède pas à... Alors, maintenant, Google a fourni aux développeurs une possibilité de Android Certification. Enfin, un truc bizarre entre les constructeurs et Google qui dit que votre téléphone est certifié ou non. S'il fait tourner l'OS que le constructeur a mis par défaut. Et si jamais vous avez un matériel qui ne fait plus tourner l'OS qui est fourni par le constructeur, il n'est plus certifié.
Et là, It's Me, c'est l'application qui est aussi poussée par le gouvernement belge pour te connecter au service officiel en ligne.
Mmh. Service gouvernemental et fédéral.
Ouais, t'as encore la carte, le petit lecteur USB, mais quand même le truc le plus,
It's Me est poussé
plus en avant, c'est It's Me. Mmh. Et là, en effet, ça me... On n'arrive pas, j'arrivais pas à l'installer puisque je tourne. J'ai pas le service Google.
Tu n'utilises pas les applications officielles de Google? Tu n'utilises pas l'ensemble des logiciels qui ont été mis à disposition par l'État et par l'État international d'intergalactique, que dis-je, qui est Google et la Silicon Valley, la société organisée des futurs. Alors, du coup, tu prends une autonomie, alors tu n'es plus citoyen, point.
Mais... It's Me, c'est poussé par le gouvernement et c'est en collaboration avec les banques. C'est un truc, drôle de bazar.
Je vais encore avancer parce qu'on n'a pas fini.
On est toujours dans le micro-G on n'a pas fini.
On n'a pas fini. Donc, après, il y a une autre application que j'avoue que j'aime beaucoup utiliser qui s'appelle Payconic, qui est une application qui permet de relier sa carte de banque à cette application et grâce à un QR code de pouvoir se transférer de l'argent de personne à personne.
Payconic.
Conic.
Ouais. Ah.
Encore.
Au prix comique.
Payconic. Tu payes des cônes.
C'est les mêmes qui font le protocole Bon Contact. Voilà, c'est les mêmes.
Okay.
Et du coup, j'avoue que avec des collègues, quand parfois on se prend une petite nourriture, il y en a un qui paye, après on se repartage l'addition, et c'est via cette application-là. Elle aussi, elle détecte que mon téléphone n'est pas un téléphone officiel avec un Android officiel.
Mais donc, t'as une vie d'enfer depuis que...
Elle est parsemée de difficultés.
En fait, depuis que tu es libre, tu ne l'es plus.
C'est un peu de ça.
Et donc ?
Mais j'ai pas encore fini. Donc voilà. Alors, tout ça, c'est mignon, c'est chouette. Mais il y a un problème, c'est que si jamais quelqu'un, demain, prend mon téléphone, il a la possibilité de faire à peu près n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que, comme j'ai dû installer une version alternative de l'OS qui était prévue à la base, ce qui permet de démarrer mon téléphone n'est plus capable de reconnaître si quelqu'un a chipoté dessus. Voilà. Du coup, on en arrive à des autres projets. On arrive à un autre projet...
Attends, j'ai pas compris la dernière partie. Donc le fait d'utiliser, donc de sortir des applications officielles de Google, iOS ou je sais pas quoi, truc, si quelqu'un utilise ton téléphone... J'ai pas compris cette
part-là. D'accord. En fait, quand le téléphone démarre,
Il
y a la partie, ce qu'on appelle bootloader, qui est vraiment la phase où il va s'éveiller, l'écran va s'allumer et il va faire un petit test. Tiens, est-ce que j'ai bien le processeur? Oui, tiens, est-ce que j'ai bien la carte mère? Oui, tiens, est-ce que j'ai bien la RAM? Oui, tiens, est-ce que j'ai bien la partie de storage? Oui.
Comme n'importe quel ordi qui boot, quoi.
Ouais. Comme n'importe quel ordi qui boot. Mais quand on installe un OS qui est différent de celui qui est fourni par le constructeur, on doit dire je te déverrouille. Je déverrouille le bootloader. Donc, ton bootloader, n'importe qui, après, a le droit de démarrer sur n'importe quel OS.
Comme c'était le cas avec n'importe quel ordi avant, sans le UEFI, par exemple.
Par exemple.
Sans avoir de système d'exploitation officiel se reposant sur un jeu de clés de chiffrement qui atteste de l'officialité de ces outils qui permettent d'utiliser l'appareil.
Tout à fait. Et comme tu as une grosse partie de ta vie privée qui est sur cette chose, ce smartphone, t'as pas envie que n'importe quel inconnu puisse, si jamais il retrouve ton téléphone, extraire toutes les informations privées que tu as dessus.
Ah oui, tu veux dire qu'en ayant routé ton téléphone, ça permet à quelqu'un qui le ramasserait dans la rue d'avoir accès plus facilement, on va dire, à l'espace de stockage ou à l'espace utilisateur de ton téléphone.
Oui. Alors, il y a moyen de chiffrer, c'est vrai qu'il y a du chiffrement qui est possible, mais... Ce qui fait que si jamais il veut insérer un keylogger ou peu importe, tu n'as pas du tout la possibilité de le détecter ou de le savoir ou de.
Ok. Comme il pourrait même te rendre ton téléphone par après avec un keylogger dedans.
Par exemple.
Ça t'a qu'à pas router ton téléphone, monsieur. C'est pour ça qu'on fait des distributions et des systèmes officiels. Tu comprends ? C'est pour ton bien, ta sécurité. Alors, à toi et à ta vie privée. En collectant toutes les 4,5 minutes tout un tas d'informations à ton sujet.
Donc, ensuite, il y a un autre projet qui s'appelle GrapheneOS, qui est dans les notes de l'émission. Donc, un jour, quand l'article de blog reparlera de cette émission, vous allez le retrouver.
Illico, on a besoin de toi, il faut écrire des articles sur src.brussels. Donc, après Lineage Micro OG, on a GrapheneOS.
Ouais. Alors, GrapheneOS, c'est un chercheur qui package justement LineageOS. Donc c'est une version LineageOS, mais renforcée. Et il le fait que sur un type de matériel très très particulier. Et là, on va encore faire en sauter plus d'un. Parce que c'est seulement sur les téléphones, enfin sur les smartphones, Google Pixel. Alors, les Pixels... Alors, pourquoi les téléphones de Google, en tout cas les Pixel, sont favorables pour avoir une plus grande sécurité ? C'est parce qu'ils permettent de prendre n'importe quel OS, de le resigner, c'est-à-dire de resigner ce qu'on appelle le bootloader. Et donc, tu installes ton LineageOS tout tranquillement, et après tu dis, voilà, maintenant je vais reverrouiller mon bootloader, comme ça, personne d'autre peut aller chipoter à ma place. Et ça, c'est parce que c'est des téléphones qui ont été prévus pour les développeurs.
Ah. Oui, donc ça... Ce qu'il y a, c'est que ça souligne combien ton intimité numérique dépend de tes capacités techniques.
Ouais.
Il y a Holm qui nous suit aussi sur le salon Riot, qui nous parle de E comme système d'exploitation pour téléphone. On va rester concentré sur l'année de E et on parlera de E la prochaine fois.
Ouais, on peut en faire un petit détour sur I, E, donc c'est slash E slash.
Oui.
C'est pour moi la même problématique que pour un LineageOS, c'est-à-dire que dessus, tu n'auras pas spécialement les Google Play Services, mais ça va tourner sur des téléphones où tu vas plus pouvoir garantir l'intégrité de ton téléphone.
Okay.
Ce qu'on entend derrière, c'est quelqu'un peut aller remodifier des choses dedans.
Mais les vieux téléphones, il n'y a pas moyen de changer quoi que ce soit dans le...
Non, c'est assez récent et c'est vraiment que sur une gamme très 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 limitée de téléphones. Mais du coup, j'ai bientôt fini mon petit tour de chemin, vous allez voir. Donc, une fois qu'on a installé GrapheneOS, c'est bien mignon, mais il n'y a même pas micro-G. Et alors, un téléphone sans micro-G et qu'on désire quand même installer des applications qui viennent du Play Store, c'est juste impossible. Et à parfois, les applications, c'est compliqué de faire autrement. Je prends par exemple le cas de l'application SNCB.
Ouais, mais là, il y a... Moi, j'utilise Transporter.
Ouais.
Mais ça marche assez bien.
Mais si tu veux avoir les billets de train qui est lié à ton téléphone, tu es obligé d'avoir l'application SNCB.
Oh, donc,
l'alternative, c'est d'aller chercher dans les bornes automatiques ou au guichet un billet de train papier. Ça veut dire ça aussi.
C'est ce que je fais encore, moi, n'ayant pas de smartphone.
Un rail pass, c'est...
C'est pas cher, moi j'en ai... Enfin si, c'est de plus en plus cher, mais ça reste moins cher.
Mais tu te rends pas compte du quantité de papier d'arbre que tu dois faire couper pour pouvoir imprimer ton billet.
Il y a un peu d'époxy aussi, d'ailleurs, sur les tickets, je crois.
Ah oui,
enfin, je l'ai ici. Oui, on va vérifier ça tout de suite.
Si tu mets une flamme en dessous... Mais je sais pas si c'est imprimé thermique. Tous les notes de caisse et tous les trucs comme ça, c'est...
Mais après, il y a un aspect très, très, très pervers dans notre société d'aujourd'hui.
Tu veux un briquet ?
C'est que de plus en plus, on vous pousse à avoir la version qui n'est pas physique, d'avoir la version numérique, avec des réductions de prix dessus.
Donc c'est du visuel sur Radio Campus ? Oups. Non, ça ne prend pas feu.
C'est papier thermique. Mmh. Donc c'est bien époxyfié.
Oui, un petit aparté par rapport à cette continuité de LineageOS vers GrapheneOS, vers d'autres horizons encore en passant par Micro-G. Un papier de la SNCB est un papier thermique.
Et pourquoi tu dis que c'est pervers ? J'ai pas compris.
Ah oui, la partie qui est pervers, c'est qu'aujourd'hui, le billet de train versus. Enfin, le billet de train physique et le billet de train numérique, ben, le billet de train numérique coûte moins cher.
Ah oui, mais. Tout est fait pour nous pousser dans l'ornière.
Bien sûr. Et c'est ça qui est de plus en plus pervers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut utiliser les applications qui sont fournies par différentes sociétés, sociétés/associations/voilà, ce qu'on veut, où on a des réductions de prix par rapport à cet usage-là, versus on veut une garantie forte de notre vie privée. Du coup, on va plutôt aller viser d'avoir le matériel, le physique, je veux dire le billet de train papier, bah, il y a du coup une discrimination pécuniaire derrière.
Bah, le message est très clair. Seuls les riches, à savoir, on va dire, les bandits, les escrocs et ceux qui ont les moyens de se payer toute forme de, on va dire, intimité, auront une intimité. C'est assez bien résumé aussi dans le pourquoi le créateur de GPG a créé GPG. C'est-à-dire que si le chiffrement est rendu illicite, seuls les gens hors la loi jouiront d'une vie privée.
Oui, mais tu peux aussi faire double.
Oui.
Double vie, triple vie.
Oui, bien sûr. C'est quand même plus compliqué, mais oui, tu peux. Oui, tu peux...
Parce que de toute façon, on est dans un univers de pseudo...
Bah, oui et non. Tu peux utiliser des pseudos, mais à partir du moment où tu l'utilises avec un smartphone qui balance comme ça, toutes les 4 minutes, ton numéro IMEI de ton appareil, ton numéro de carte SIM, ton numéro... des MAC adresses... et au même temps, parce que c'est le cas pour iOS, par exemple, les MAC adresses des appareils... dans le champ avoisinant, ça c'est, je tire pas ça comme ça au hasard, je tire ça d'une étude qui a été publiée le 25 mars par Douglas J. Leif de la School of Computer Science and Statistics du Trinity College de Dublin, qui raconte que iOS, comme ça, collecte et soumet à Apple toutes les 4 minutes, pour ainsi dire, les MAC adresses des appareils avoisinants, ton entourage direct. Donc tu vois, tu peux utiliser des pseudos, mais de toute façon, les pseudos ne seront qu'une étiquette sur une quantité d'informations très intime qu'une entreprise multinationale conserve potentiellement pas trop longtemps, mais qui sait, peut-être à vie, dans ses serveurs.
Est-ce que
ça a l'air bien ton article. Okay.
Et moi, ouais, aujourd'hui, c'est des ping-pong, hein. on en revient.
Du coup, je vais juste finir mon petit sujet. Donc,
oui.
Une fois qu'on a eu connaissance de GrapheneOS et que du coup, on a acquéri un pixel de manière reconditionnée, en fait, on se rend compte qu'on est très vite limité. Donc, KaliOS, donc c'est
KaliXOS. KaliXOS.
Voilà. Est un OS qui, justement, va embarquer GrapheneOS, donc avec toute la partie sécurisation et garantie forte que personne ne peut le modifier, et MicroG. Donc, on va retrouver le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir quand même utiliser les applications qui sont prévues à la base pour Android avec les Google Play Services, mais en utilisant une réimplémentation des Google Play Services en manière open source, enfin libre, et un OS qui va nous garantir que personne ne va pouvoir bidouiller dedans à notre insu. Donc voilà, donc moi je suis à l'étape Lineage OS et MicroG.
Ok.
Je suis à cette étape-là, donc il y a plein de...
Tu vas te commander un Pixel bientôt.
Ça va sans doute arriver.
Hein, tu vas faire quoi avec ton ancien téléphone?
Je ne sais pas encore.
Il y a déjà son ancien téléphone à la maison qui sert à rien à part prendre la poussière.
Allez,
T'as des téléphones à donner?
Moi je suis intéressé.
Mais
oui, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les téléphones de maintenant.
Ah non, moi j'en ai pas, non.
De con.
Ça me fait penser d'ailleurs, si je peux intervenir.
Oui.
Que les téléphones, en fait, on peut très peu les recycler. Pour revenir un peu au sujet précédent, au tout premier sujet.
C'est-à-dire?
Ben, un ordinateur, tu peux récupérer son disque dur, sa RAM, tout ce que tu veux.
Mm-hmm.
Et un ordiphone, qu'est-ce que tu peux récupérer?
Ouais, tout collé ensemble, spécifique au modèle prêt. Si t'as un téléphone qui est deux mois plus ancien, oublie.
Ouais.
Tu peux pas échanger la pièce. Quasiment.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, c'est ça.
Mais il n'y a pas que les téléphones qui sont en faute. Il y a aussi... Vous avez parlé des trains. Toi, te donner un exemple avec les trains. Mais par exemple, sur les trams, si tu enlèves l'application pour les transports, ils te disent oui, tu dois uploader. Mmh. Après, ton appareil n'est pas assez fort. Eh bien, c'est fini, c'est fichu.
Ah oui, tu veux dire que par exemple, si y a une évolution de l'application de la STIB,
exact.
Et que ton téléphone, lui, est toujours le même, qu'à un moment donné, tu ne puisses plus avoir accès à cette application.
Exact.
C'est ça. Ben, c'est normal, puisque ce ne sont plus des transports publics, ce sont des transports de partenariat public-privé. Donc du coup, évidemment, il va de soi que, puisque l'application de la STIB, du TEC ou de la SNCB ou de je ne sais quel autre machin pourrait être mise à jour et que ton appareil deviendrait obsolète, qu'il soit routé ou pas, qu'il soit officiel ou pas, demanderait de ta part d'acheter un nouvel appareil pour pouvoir prendre les transports publics privés.
Moi, je me demande si vous n'avez pas entendu trop d'histoires de grands méchants loups.
Eh bien, je propose qu'on s'arrête là, qu'on fasse une petite pause avant le prochain sujet.
D'accord.
Till he taught her how to shoot. Daddy didn't play no games. Wouldn't let her trade her name for a fake I do. Boy, you better know what you're getting into. This ain't no shotgun wedding that you're used to. The target is. Can't help but knowing what her daddy
du coup, c'était Daddy Dogger de The Ghost Liberty.
Liberty.
Il se passe quelque chose après-demain?
Ah, oui.
Ah. Enfin.
Qu'est-ce qui se passe après-demain?
Décloisonnage.
Tu retires les cloisons?
Mm-hmm. Alors, il se passe demain. Il se passe demain quoi?
C'est après demain?
Ouais, non, non, pas demain, c'est pas demain.
C'est pas demain.
Vendredi aujourd'hui, c'est dimanche.
Tu sais que le jour où on cherche à faire quelque chose de bien,
oui,
librement.
Ouais, ben, le troisième dimanche du mois est le jour, depuis très longtemps, plusieurs années en tout cas, de l'install party de Neutrinette. Mais c'est aussi un moment de rencontre du BX Lug. Et donc, puisque on a la chance de partager un lieu fort sympathique qui s'appelle Caldarium, donc vous pourrez trouver l'adresse sur caldarium.be, le troisième dimanche du mois, on s'est dit, ben, on va décloisonner l'association Neutrinette et l'association BX Lug pour rassembler des bénévoles qui viendraient de travailler sur leurs différents projets, que serait l'installation de briques internet, de découverte de Wayunost, d'auto-hébergement, ou de remplacement de systèmes d'exploitation propriétaires par des systèmes d'exploitation libres, ou de ben voilà, déblocage de situations logicielles dysfonctionnelles, perte de mot de passe de sa distribution préférée, mise à jour, ou que sais-je. Et en se disant qu'on peut aussi adjoindre à ça d'autres organisations comme les Gnuragistes ou qui sait peut-être un jour Nubo pour accompagner un peu plus ouvertement les différents sujets du monde du logiciel libre. Est-ce que j'ai bien résumé le truc?
Je crois que c'est pas mal.
Ah ouais, hein. Le décloisonnement, pour moi c'est important.
Et par exemple, Gavry, tu es un bel exemple de décloisonnement.
Elle n'entend plus dans son micro-casque.
Ça va être compliqué, du coup.
C'est à cause de son masque.
Yeah.
Du coup, Gavry, comme tu me l'as fait quand je suis venue dans ton émission,
oui.
Quelle est ton émission?
Ah, la mienne, ah, ok, elle s'appelle Passé Muscade. Elle existe depuis 15 ans, parce que je suis très gourmande. On ne met pas ses doigts dans son nez.
Ah oh, si, si, il y a aussi du manger dans le nez.
C'est une bonne
transition. J'ai bien dit décloisonner. Ouais.
C'est une transition osée, mais c'est beau. Hein.
Oui, mais attends, quand tu penses qu'on mange des escargots,
ouais.
Oui. Quand on mange des cuisses de grenouille,
oui.
Et beaucoup de choses, les insectes aussi, très, oui. Ça va devenir quand même très courant, de plus en plus courant. Mmh. Donc en fait, voilà, c'est ça. C'est une émission. Enfin, en écoutant Campus, je me suis rendu compte qu'on ne parlait pas de la gourmandise, mais de la gourmandise d'une façon évolutive aussi. Donc, d'après les mœurs et les tendances, etc. Sauf que moi, j'ai déjà tout fait 10 ans avant. Donc maintenant, comme on est dans des conditions un peu isolationnistes, alors je me suis dit, à Campus, il faut se rencontrer, on ne se connaît pas assez, on est chaque jour, on voit peut-être les gens, l'émission avant, l'émission après, et donc on se croise dans les couloirs, et donc c'est comme ça, par exemple, je vois arriver l'émission suivante qui est What is
it? Elle n'est pas encore là.
Presque, presque. Et donc, voilà, je crois que les couloirs de Campus sont bien. Donc, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles sont très bien pour décloisonner. Mm-hmm. Et notamment, comme on le fait dans les associations qui font du logiciel libre. Je crois que vous aimez être en contact, comme vous avez fait une interview avec Mumble.
Mm-hmm. Aussi, ouais.
Voilà. C'était un exemple quand même intéressant, avec quelqu'un qui avait besoin de cette reconnaissance aussi. Moi, je l'ai entendu.
Ah, peut-être, je ne sais pas, moi, je ne le connais pas personnellement.
Non, mais je l'ai entendu même dans l'interview, tu vois.
Ah oui, il y a deux, trois semaines.
Oui, c'est ça.
Oui, lors de Métapresse, je crois que c'était...
Ben, c'est toi qui connais ta conduite.
Oui, ben, moi, ma conduite...
Donc voilà, donc... où est-il passé?
Ah, il est toujours là, mais on se bouscule déjà au portillon.
Excusez-moi. Donc c'est bien ce que je disais. Je trouve que ici, on est sur des ondes radio, on touche à... émotion.
C'est l'émotion.
On touche les gens via des vibrations. Et donc, il y a une question d'énergie. Et il y a beaucoup d'énergie ici à Radio Campus, et particulièrement dans cette période-ci. Je trouve que c'est bien de se rencontrer. Comme vous vous rencontrez le troisième dimanche du mois, pour aider.
C'est l'idée. C'est la deuxième édition ce dimanche, donc à partir de 13h. Et c'est un peu dans l'idée, oui, de...
C'est l'idée de
mettre des énergies. Il y a un mot, il y a une histoire d'énergie là derrière, de se rendre compte que c'est pas parce que c'est des sujets complexes de société ou très techniques en termes de technologie utilisée que tout ça n'est pas fait par des êtres humains qui ont besoin de le faire ensemble.
Tu veux dire que tu viens de Mars ?
Je ne vais pas révéler ma vie privée sur les ondes radio.
Ok, en tous les cas, si j'ai bien compris, si j'ai bien retenu, c'est de rendre visible ce qui était invisible, et déjà via les ondes.
C'est pas faux.
Et les couloirs de Radio Campus, où on se croise, on fait connaissance. Je ne connais pas encore vos plats préférés.
Et on fait des liens entre émissions et entre associations aussi. L'Aigle du Mirage, qui font des logiciels libres, et Radio Campus, qui est une radio libre.
Avec du logiciel libre, qui a fait appel aux Mirage. Et donc, il y a une sorte d'harmonisation de l'énergie du monde.
Oh, c'est beau ça, une harmonisation de l'énergie du monde.
Alors, je te vois. Maintenant,
on peut décoller.
Non, on ne nous coupe pas. Il y a Elekin qui nous a dit qu'on n'a pas parlé de Exodus Privacy. Alors, tapez ça dans votre moteur de recherche, Exodus Privacy, et vous tomberez sur un site qui vous en parle un peu plus de votre vie privée.
Merci.
Merci Nico, merci Thiers, merci Peter, merci Gabriel, merci Ageo,
merci Tari Rock.
Something gonna change.